Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous passez à table. Une émission préparée par Manuel Mariani. Comment ça va, Manu ?
Ben, ça va pas mal. Et vous, Philippe ?
Ben, écoutez, ça va. Je suis très inquiet pour votre santé.
Pourquoi donc ?
Bah, je sais pas. Vous vous intéressez subitement à la vapeur, ça vous ressemble ?
Non, je vous corrige, Philippe. On va pas parler de vapeur, on va parler de vapeur douce.
Ouais, mais c'est quoi la différence entre la vapeur et la vapeur douce ?
Eh ben, notre invité du jour va vous le dire dans pas longtemps. Philippe, il est là pour ça, parce que c'est très différent.
Ah oui ? Non, mais quand vous m'avez vendu le truc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, Manu ? C'est Elfie, c'est super Elfie.
Non, mais vous savez, la vapeur ou la même et la vapeur douce, ça peut être un des modes de cuisson d'une recette.
Oui.
On peut cuire à la vapeur et snacker après, par exemple, pour avoir un peu plus de gourmandise. C'est pas forcément une cuisine pour gens malades et convalescents, hein, la cuisine vapeur.
Enfin, c'est pas une cuisine pour gens qui aiment trop la viande. Hein.
C'est pas forcément vrai, Philippe. On va le voir.
Il n'y a pas des masses de viande dans le livre de notre invité. Il y en a, mais avec parcimonie et bonne
escient. Il y en a. Il y a même un beau chou farci.
Il y a beaucoup de végétariens, en de flexitariens, de...
Ben justement, c'est d'où l'intérêt de faire cette émission. C'est parce que le livre correspond au moment.
Ouais, je vais taquine parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses et on peut cuire énormément de choses avec la vapeur qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein de choses à faire.
Alors, notre invité, Manu.
Alors, juste avant l'invité, Philippe, je voudrais faire un petit hommage. Hein. Je vous ai parlé souvent des
sœurs Scotto.
Des sœurs Scotto, hein, qui ont écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres. Et donc, ma consœur et amie Elisabeth Scotto nous a quittés lundi dernier. Des suites d'une maladie. Et donc, je voulais simplement lui rendre un hommage parce qu'elle fait partie, avec ses deux sœurs, Michel Carl et Marianne Pomoli, qui, elle aussi, est aujourd'hui disparue. Ça fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc, je voulais lui rendre un hommage. Voilà.
On en parlait souvent, c'est vrai, hors antenne des sœurs Scotto.
Et oui, alors, une grande amatrice de crêponnet en plus. On avait parlé du crêponnet
exactement.
Avec elle.
À sa recette du crêponnet. Alors, Stéphane Gabrielli, notre invité, Manu.
Tout à fait. Alors, Stéphane Gabrielli, bon, ça fait longtemps qu'on se tourne autour, qu'on se parle par réseaux sociaux interposés, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais fait d'émission ensemble. C'était toujours un peu dans les tuyaux, plus ou moins. Bon, on se croisait aussi à Ferrandi de temps en temps quand il y avait des événements là-bas, parce que Stéphane Gabrielli, il est chef cuisinier, mais il est aussi formateur à l'école Ferrandi, qui est l'une des plus prestigieuses écoles hôtelières en France. Et bon, alors il a été chef de cuisine dans des restaurants aussi, hein, aux États-Unis, à Bordeaux, à Bayonne, chef à domicile dans le Sud-Ouest. Vous avez été aussi, Stéphane, à l'Institut Paul Bocuse, formateur également. Et puis surtout aussi passionné par les artisans, les éleveurs. Et vous voyagez beaucoup dans toute la France pour dégoter les meilleurs produits, les meilleurs artisans. Et puis pour apprendre un petit peu tout cet art à vos étudiants à l'école Ferrandi. Et puis, vous avez écrit un livre, parce que vous êtes l'un des spécialistes de la cuisine à la vapeur douce. Vous venez de sortir aux éditions Albin Michel le livre Sublime, au pluriel, les produits du marché à la vapeur douce, 200 recettes incontournables. Bonjour Stéphane.
Bonjour Manuel.
Alors, on est très heureux de vous recevoir. C'est vrai que, la cuisine à la vapeur, tout le monde connaît plus ou moins, imagine plus ou moins ce que c'est, mais là on va parler de vapeur douce. Alors qu'est-ce que c'est que la vapeur douce, Stéphane ?
Oui, tout le monde connaît la cuisine à la vapeur. C'est surtout la plupart du temps comparé à une cuisine de régime, de gens ou malades ou qui ont besoin de perdre quelques kilos en trop. Mais c'est aussi une cuisine gourmande. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire voir dans ce deuxième ouvrage chez Albin Michel. Comment on pouvait transformer un produit qui est passé dans un bain de vapeur en produit bistronomique, voire gastronomique.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas votre premier livre hein, au sujet de la cuisine à la vapeur douce, puisque vous aviez, pendant le confinement d'ailleurs, c'est plutôt bien tombé, puisque les gens cuisinaient beaucoup à la maison, hein, plat gourmand à la vapeur douce. Là, 120 recettes, hein, et il est toujours en vente. Donc, on peut aussi se le procurer encore si on veut avoir aussi des recettes en plus.
Alors, c'est vrai que quand on parle de cuisine vapeur, on pense peut-être même d'abord à la cocotte minute.
Oui.
Hein, voilà. Mais alors, c'est quoi la différence avec la vapeur douce? Qu'est-ce qui change?
C'est question de température, en fait. C'est qu'on est en dessous des 100 degrés parce qu'on ne cuit pas en vase clos.
On est à combien,
voilà? On va être 98, 99. Donc,
ouais. Le chiffre officiel, c'est 95, mais c'est quand même très dur de s'y tenir.
Oui.
Parce qu'en fait, il faut être il faut que ça frise l'eau. Il faut pas que ça boue. Il faut que ça frise. Donc, on est aux prémices de l'ébullition. Il faut que ça boue un peu, mais pas trop. Donc, 95, je pense que c'est la température techniquement idéale. Oui. Mais on est entre 95 et 100, on va dire.
Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de thermomètre. Donc, voilà, on ne peut pas le gérer. La température est gérée juste parce que le couvercle se soulève. Donc, on n'est pas en vase clos sur cet ustensile de cuisson. Par rapport à la cocotte minute, qui est déjà sous pression, où on dépasse les 105, 110 degrés. Donc, c'est là où ça fait vraiment la différence.
Oui, il y a même des cocottes professionnelles qui peuvent monter jusqu'à 200, 300 degrés, qui combinent et la pression et une très haute chaleur. Mais là, en général, l'aliment est mort de foie.
Hein. Oui, voilà, on a tout perdu.
Qu'est-ce que ça change donc pour la cuisson?
Alors,
c'est quelques degrés de différence.
Alors, ce qui change, c'est surtout qu'on garde le goût et le croquant de l'aliment, parce que on va pas détruire toutes les fibres. Donc, à la dégustation, vous allez avoir quelque chose. Comme les cuisiniers disent, on cuit croquant. Là, c'est juste l'effet de la vapeur qui
gourmand
permet.
Gourmand croquant, Stéphane.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. C'est l'effet de la vapeur qui permet que l'aliment n'a pas tout perdu en texture. Donc, on n'a pas du bouilli délavé en bouche.
Ouais. C'est le al dente des légumes, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est ça. On en parlait avec Stéphane tout à l'heure, avant de démarrer l'émission. Mais c'est vrai que quand vous cuisez à une température trop élevée à la vapeur, souvent vos légumes, par exemple, je prends l'exemple des légumes parce que c'est une des choses les plus fragiles, souvent ils sont surcuits à l'extérieur, pas assez cuits à l'intérieur. Si vous voulez les cuire à cœur, d'ailleurs, on a souvent le problème quand on fait le couscous, hein, parce que les cuiseurs vapeur douce, ça ressemble à des couscoussiers, mais il y a plein de différences. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que souvent, vous vous retrouvez avec les légumes qui se délitent, etc. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir les cuire à cœur, il a fallu surcuire l'extérieur. La cuisson vapeur douce, ça permet d'avoir une cuisson uniforme des légumes, ce qui fait qu'on va garder effectivement la texture. On va pouvoir avoir une cuisson uniforme et donc d'avoir de la mâche avec un légume qui est cuit à la vapeur. Donc déjà, ça enlève un des inconvénients de la cuisson vapeur, parce qu'on dit, ouais, c'est de la bouillie, quoi. Alors que là, il y a de la mâche. Et ça, c'est la première chose. Et puis, donc là, au niveau... donc Stéphane parlait des avantages au niveau gustatif et culinaire, mais aussi au niveau de la santé, c'est que comme on est à moins de 100 degrés, on va conserver tous les bienfaits des aliments, c'est-à-dire les nutriments, les vitamines, la couleur aussi, hein, parce que les pigments des légumes commencent à disparaître au-delà des 100 degrés. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait cuire des haricots verts, par exemple, souvent dans les recettes, on vous dit, après vous les refroidissez dans de l'eau glacée ou dans de l'eau avec des glaçons. Pourquoi ? C'est pour fixer la chlorophylle ou pour fixer la couleur. On les refait redescendre tout de suite à une température où ces pigments ne vont pas partir. Donc on cuisine beau, bon et sain.
Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui est important, parce que beaucoup en restauration, quand on fait cuire un légume à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau, on le rafraîchit aussitôt pour bloquer sa couleur. Voilà, mais on le lave en fait. C'est ça qui est un peu dommage.
Et on lave le goût avec.
Ouais, et bien sûr, vous perdez le goût, vous perdez tout. Donc voilà. Que là, sur la cuisson à la vapeur douce, les aliments, ils sont cuits et surtout les couleurs restent. Donc j'ai fait tout le stylisme culinaire du livre en instant T, c'est-à-dire que j'étais dans ma cuisine, dans mon salon, je faisais les cuissons et aussitôt ça partait au shootage. Je voulais vraiment que les gens puissent retrouver l'aliment qu'ils avaient cuit dans l'assiette. Il n'y avait pas de retouche, on n'a rien touché sur les photos, c'est de l'artisanat.
Il n'y avait pas de maquilleur culinaire, comme ça se fait souvent dans les livres de cuisine,
de styliste.
Là, c'est la problématique, c'est justement, j'ai pas voulu, j'ai dit on va jouer le jeu et on va jouer l'honnêteté. Il y a faux des stylismes culinaires, bien sûr, mais moi, j'ai pas voulu. Donc, j'ai dit on reste dans l'instant T.
Alors, pour vous, l'appareil de cuisson vapeur douce idéal, à quoi il ressemble ?
Ben, il ressemble à un appareil en inox sur un étage. Voilà, ça c'est vraiment important, parce que comme ça, le problème avec 2-3 paniers de cuisson, quand vous cuisez dans des cuiseurs vapeur, c'est que la température monte pas assez, et les aliments qui cuisent délavent les aliments en dessous par ce système de cuisson. Donc il faut aller sur un étage, un couvercle qui est pas étanche, parce que ça c'est vraiment important, parce qu'en fait le couvercle sur le vitaliseur en fait est bombé, et il n'est pas étanche. Dès que l'eau monte en pression, le couvercle se lève légèrement. Ça fait en fait comme un four à chaleur tournante, mais dans une zone humide. Donc il y a vraiment une circulation dans la vapeur.
Voilà. Stéphane vient de citer le vitaliseur. Le vitaliseur, c'est en fait l'appareil, l'ustensile qu'il utilise pour cuire à la vapeur douce. Parce qu'on pourrait se dire, je vais cuire à la vapeur douce. Avec un couscoussier, par exemple. Mais le couscoussier, il a un fond beaucoup plus fin. Parce que bon, le couscoussier, on veut que ça boue, on veut qu'il y ait du bouillonnement dans la partie basse. Donc qu'effectivement, ça boue pas mal. Le vitaliseur, ça a un fond qui est plus épais, ce qui fait qu'on va pouvoir atteindre un frémissement. Enfin,
c'est le vitaliseur.
Le cuiseur vapeur douce, parce que bon, il y en a pour pas nous attirer les foutes du CSA, je vais en citer trois. Ouais. Allez, l'omnicuiseur, il y a le cook fresh. Non, mais je dis pas que c'est des bons produits, mais voilà, je les cite. Et puis, il y a celui qu'utilise donc notre invité Stéphane, c'est le vitaliseur de Marion.
Ouais.
Pour rendre à César.
Voilà, on a le Vapoc aussi, donc, qui est un peu dans le même style.
Ok. Ouais. Alors, la différence, parce que je crois que la taille des trous de la partie haute n'est pas la même que sur un couscoussier, parce que moi je parlais de l'épaisseur du fond. Quelles sont les spécificités entre un cuiseur vapeur classique ou un couscoussier et un cuiseur vapeur douce ?
Alors déjà, bon, c'est la matière, l'inox, ça c'est 18/5, c'est vraiment important. Après, c'est le panier, c'est la taille des trous, pour qu'il y ait une circulation plus rapide de la vapeur. Pour finir, c'est l'épaisseur du tamis, voilà, qui est de 12 cm, justement pour pas qu'on charge trop d'aliments à l'intérieur. Et le couvercle qui est en dôme et qui est pas hermétique, qui permet de se soulever.
Pour la circulation aussi de la chaleur, de la vapeur.
Oui.
Et permettre au couvercle de s'entrouvrir.
Oui, et c'est surtout que l'eau ne retombe pas sur les aliments parce que le couvercle est en dôme.
Oui.
Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que vous lavez pas les aliments. On peut se permettre de faire des gâteaux, du pain, cuire de la viande. Les aliments sont jamais délavés. On est dans une vapeur qui est humide, mais c'est sec.
Et contrairement au couscoussier, on peut pas mettre, ou au cuiseur vapeur classique, on peut pas mettre 2, 3, 4, 5 étages. C'est vraiment, il y a vraiment un seul étage de cuisson pour pas que, si c'est des légumes qui sont pas bio, pour pas que les pesticides tombent d'un étage sur l'autre. On élimine tout ce qui va pas, ça part dans le bas, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. On est vraiment, si on veut cuire du poisson, si on veut cuire des légumes, voilà. Les pesticides de surface, il y a un lavement, on va pas au cœur, hein, bien sûr. Mais au moins, pour les poissons, les toxines qu'il peut y avoir et quoi, ça permet de pouvoir les rincer sans les humidifier. Donc voilà. Et ça retombe dans l'eau, qui est dans la cuve. Et justement, cette eau, on ne peut pas l'utiliser après pour, cuisiner avec ou mouiller ses soupes ou quoi. Elle est polluée. Donc voilà.
Ok. Il y a des modèles électriques qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il y a des modèles électriques. Le problème, c'est que la quantité d'eau qu'on met n'est pas suffisante.
Oui, c'est peu d'eau au fond.
Ouais, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que plus on cuit rapidement, meilleur est le résultat. Donc, si vous cuisez des brocolis 20-25 minutes, on a cet effet bouilli et cet effet délavé. Mmh. Voilà, parce que vraiment, faut que ce soit saisi. C'est justement quand on met en cuisson dans le cuiseur vapeur vitaliseur, on attend que l'eau boue bien et on attend vraiment la reprise de l'ébullition pour que ce soit saisi. Ce que je fais avec les viandes, parce que la viande peut se faire à la vapeur et on a de très très bons résultats sur le magret, sur la volaille.
J'ai vu que vous cuisiniez le magret à la vapeur.
Rosé, ben oui.
Ouais,
ouais. Non, c'est un Toulousain qui parle.
Là, non, mais voilà. Du magret à la vapeur.
Ouais, mais je sais, je fais aussi du paleron, j'ai fait aussi des côtes de bœuf Angus, j'ai fait des côtes de bœuf maturées, voilà. C'est fabuleux.
Aujourd'hui, tous les chefs font des cuissons de viande à basse température, ça choque personne. La cuisson à la vapeur douce, c'est une forme de cuisson basse température. Voilà.
Bien sûr. Tout à fait.
Et on va voir ce matin tout ce qu'on peut faire à base de cuisson à la vapeur douce, hein, ce matin. Dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, et on parle de la cuisine à la vapeur douce aujourd'hui, Manu, avec notre invité.
Oui, avec Stéphane Gabrielli, donc, qui est chef de cuisine et surtout chef formateur à l'école Ferrandi, qui est l'une des plus prestigieuses écoles hôtelières françaises, et qui vient de sortir son deuxième livre sur la cuisine à la vapeur douce, qui s'appelle Sublime au pluriel, les produits du marché à la vapeur douce, qui cartonne d'ailleurs. Pardon, Philippe ?
Non, c'était pas pour vous arrêter, c'était juste pour vous dire que j'avais une question à poser, mais allez-y, mon pote.
Voilà, oui, dans un livre qui cartonne, puisqu'il est sur tous les podiums des catégories de vente de catégories de vente sur Amazon notamment.
Donc, alors, le livre marche. C'est l'eau qu'on met dans l'appareil, donc qui se transforme en vapeur. Est-ce que la qualité de l'eau qu'on met à l'intérieur a de l'importance ou pas ?
Non, justement, c'est un gros avantage où actuellement l'eau est une question qui est souvent...
Il n'y a pas d'influence sur le goût, en fait.
Non, parce que la vapeur ne conduit pas les odeurs. C'est-à-dire qu'on peut même l'utiliser avec des eaux polluées. Ça n'a pas de problématique dans le goût. Et on peut... Surtout, on n'aromatise pas l'eau avec des herbes, des épices, parce que ça ne sert à rien.
C'est ce que je dis souvent, hein. Il y a des gens qui disent, moi je vois parfois des recettes dans des magazines féminins, je vais pas les citer, hein, mais où on propose des cuissons vapeur, et c'est mettez un cube de bouillon, machin, déjà mettez pas des cubes, faites-les vous-même les bouillons, c'est tellement facile, hein, avec vos parures de légumes, etc. Les bouillons, on les fait nous-mêmes, hein, c'est bien meilleur, et ça sert à rien d'aromatiser l'eau d'une cuisson vapeur, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que faut peut-être éviter de le faire quand même, c'est pas idéal, mais on peut mettre à la limite on pourrait presque mettre un poisson et une viande dans un
vapeur,
et ils vont le poisson,
il n'y a pas de transfert de goût,
non. Zéro. Non. La vapeur, zéro.
Non, c'est-à-dire que quand moi je fais des repas complets, on va démarrer avec le poireau vinaigrette, un poisson et finir avec un gâteau au chocolat, je ne change absolument pas l'eau. L'eau est toujours la même. Donc c'est fabuleux.
Oui, parce qu'on peut faire des gâteaux à la vapeur douce aussi.
Oui, oui. Il y a quelques recettes qui sont assez bluffantes de gâteaux dans ce livre.
Alors comme disait Philippe tout à l'heure, hein, il a employé le terme en début d'émission, ça fait des gâteaux très fluffy, comme disent les jeunes.
C'est vous qui me l'avez appris, Manu. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire. Vous avez parlé de poireaux. Et alors, dans votre livre, alors là, du poireau, il y en a. Alors moi, j'adore le poireau. Je trouve que ça se perd beaucoup. On dit aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un bon poireau vinaigrette. Mais vous faites énormément de recettes à base de poireaux. Ça vous vient d'où, cet amour du poireau ?
Non, parce que c'est le premier légume que j'ai goûté à la vapeur, et j'étais stupéfait d'avoir de la mâche, du goût et de retrouver le vrai goût du poireau. Et surtout dans ce livre, ce que j'ai voulu, c'est que j'ai pris 18 produits en thématique et j'ai décliné 4 recettes sur le même produit. Donc c'était vraiment important. Quand les gens ils achètent une botte de poireau, ils en utilisent 2, 3 et après ils disent mais qu'est-ce que je fais avec le reste ? On va manger du poireau toute la semaine. Et ben j'ai fait voir qu'on pouvait faire un velouté, qu'on pouvait faire une terrine de poireau, qu'on pouvait faire
terrine de poireau à l'estragon et à la ciboulette.
Oui.
C'est sublime ça.
Ouais, vous voyez, c'est ça aussi la vapeur.
Ouais.
Il faut le savoir. Dans votre livre, ce qui est plutôt pas mal fait aussi, c'est que Il y a des recettes qui s'inscrivent dans des catégories différentes, hein, du genre j'ai 20 minutes pour cuisiner ou presque, je me prépare à l'avance pour rester avec mes invités, ou je veux épater mes invités, ou bien je fais découvrir le végétal à ma famille et à mes amis. Il y a des notions de batch cooking aussi, hein, c'est-à-dire qu'en début de semaine, je prépare tous mes menus de la semaine et comme ça, je gagne du temps. Je prépare mes repas pour emmener parler de bento, hein, la petite boîte japonaise, hein, qu'on appellerait la gamelle, hein, français. Voilà, vous donnez aussi une liste de choses à toujours avoir dans les placards.
Oui, c'est important, c'est pas la peine. Moi, je vois beaucoup quand je fais de la cuisine à domicile ou quoi, de voir des placards qui regorgent d'épices, qui regorgent d'ingrédients. En fait, il faut rationaliser les ingrédients pour surfer sur quelques-uns et les adapter suivant les recettes.
Voilà. Et c'est effectivement aussi un certain nombre de recettes de base, de sauces de base et puis de condiments.
Alors, quand on parle de sauces de base, par exemple, il y a la béarnaise.
Oui. Mais
quelle est votre vision de la béarnaise à vous?
Moi, je suis un fan de la sauce béarnaise, donc il a fallu que je l'adapte un peu.
Aussi, c'est pour ça que je les arrête là-dessus. Ouais.
C'est ma sauce préférée. Donc voilà, donc je l'ai retravaillé un peu et on a fait une sauce béarnaise.
Qu'est-ce qu'il y a en plus?
Elle est un peu plus légère.
Ouais.
Donc les voilà.
La béarnaise, faut que ça tienne, quoi.
Non, mais elle
faut
tient.
Être sérieux.
Non, elle tient. Elle tient. Ouais, on l'a allégée et surtout, on a permis de la faire un peu froide, donc on peut la garder un peu plus longtemps, voilà.
Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser au chef sur la cuisson à la cuisine vapeur douce, profitez-en, hein, 01 53 48 3000, c'est pas tous les jours qu'on a un spécialiste pour parler de ça, 01 53 48 3000, d'autant que tout à l'heure, vous parliez des viandes, alors ça peut surprendre les gens de se dire qu'on peut faire de la viande à la vapeur douce, quel est le secret ?
Oui, alors bien sûr que ça surprend, hein. Vous faites pour un chef dire qu'on va mettre une belle côte de bœuf dans le cuiseur vapeur et vous disent mais t'es un malade.
Au prix où ça coûte.
Voilà, au prix où ça coûte. Ouais. Donc, mais en fait j'ai osé, je suis fier d'avoir osé. Donc il y a deux choses qui sont essentielles, c'est la remise en température, ça c'est pour que vous soyez à la vapeur ou sur une réaction de Maillard. C'est
important. La réaction de Maillard, oui.
Voilà. La réaction de Maillard, c'est quand il y a une caramélisation externe. Donc, vous cuisez à la poêle ou au barbecue et que la viande caramélise. C'est les sucres qui font caraméliser la viande. Donc, ça, c'est la première chose. La remise en température. Et moi, je l'assaisonne de gros sel parce qu'en fait, le sel va permettre à la viande de se relâcher et l'eau à l'intérieur de sortir vers l'extérieur. Donc, on a les fibres qui s'ouvrent et ce qui va permettre que quand vous allez mettre votre côte de bœuf qui va cuire entre 14 et 15 minutes à la vapeur, la chaleur va aller à cœur. Donc, ce qu'on n'a pas forcément avec une réaction de Maillard, parce que dès qu'on fait une croûte, la chaleur a du mal à pénétrer dedans, donc il faut l'arroser longtemps, la cuire très doucement, et voir la finir au four. Donc, une chose qu'on n'a pas avec la vapeur, sur un magret de canard, on est à peine à 6 minutes de cuisson pour avoir un magret rosé parfait, et chaud surtout.
Mais voilà, la côte de bœuf, vous la salez à quel moment?
Dès que je la sors du frigo, en fait. C'est-à-dire que je la remets en température de bonnes heures.
Oui,
et ça, elle est voilà. Non, la remise en température est importante et je la sole à la sortie du frigo. Comme pour le magret de canard.
On ne cuit jamais une viande directement à la sortie du frigo. Stéphane a raison d'insister là-dessus. Parce que les fibres vont être un peu traumatisées par le froid. Si vous cuisez une viande directement à la sortie du frigo, c'est là que vous allez avoir une semelle, quoi, comme on dit. Hein. Il faut laisser les fibres se détendre avant la cuisson.
Oui, c'est comme tout. On faut pas agresser par rapport à une cuisson. Il faut un temps de repos après et avant.
Mais vous salez avant la cuisson?
Oui, je sale toujours à la cuisson. Alors, les chefs, ils vont dire, mais non, faut pas faire ça parce que le sang va sortir, on va avoir une viande sèche. Mais non, on peut saler avant la cuisson. Et pour la cuisson à la vapeur, c'est préférable pour ouvrir toutes ces fibres et que la chaleur aille à cœur de la côte ou de votre morceau de viande.
Voilà, Philippe, vous posiez la question par rapport aux viandes. On a parlé aussi des légumes. Mais la cuisson à la vapeur douce, elle s'adapte vraiment à beaucoup plus de choses que ça. Et Stéphane va nous en parler. On peut cuire des légumineuses, hein, comme des lentilles, des pois chiches, des haricots secs, je parle évidemment. On peut se cuire des céréales, donc du blé, du riz, des choses comme ça, à la vapeur douce, mais aussi du poisson, évidemment. Mais des fruits, on peut faire du pain, on peut faire des gâteaux, ça vous le disiez tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a des gâteaux qui sont bombés, jolis, et avec un moelleux assez incomparable. J'avais goûté d'ailleurs une fois des baos de Stéphane à la vapeur douce. C'est vrai que les baos... c'est à la mode parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui font des bao burgers maintenant. C'est cette brioche chinoise qui généralement, bon, elle était faite avec une farine de riz qui fait qu'elle est, c'est en général c'est trop cuit, c'est cuit recuit, etc. C'est hyper sec. Là, c'est vrai que quand c'est cuit à la vapeur douce, on a quelque chose qui est super moelleux, très agréable. Et donc, on peut vraiment cuire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, le riz, par exemple, ça paraît surprenant de cuire le riz à la vapeur.
Non, parce que du côté de l'Asie, on cuit le riz au cuiseur vapeur. Donc, c'est exactement le même principe.
Et le couscous, on cuit bien le couscous, qui touche le liquide. Hein.
Comment vous faites pour avoir un riz parfaitement à tendreté?
Alors déjà, ce qui est important, c'est que le riz, il faut le rincer plusieurs fois.
Donc, enlever l'amidon.
Voilà, il faut le rincer 2-3 fois. Il faut le laisser dans de l'eau environ une vingtaine de minutes pour qu'il puisse...
Tremper, quoi.
Voilà, ouais. Pour le faire tremper. Le rincer pour vraiment enlever tous ces amidons. Et après, je le couvre juste avec 1 cm et 20 à 25 minutes de cuisson. Et ça suffit.
Il faut éviter les riz pré-cuits ou étuvés.
Ah, c'est une catastrophe.
Voilà, il faut prendre du vrai riz de base.
Ouais, voilà. Non, tous les riz pré-étuvés ou quoi. Voilà, vous prenez des riz complets, des riz de base, des basmati ou quoi, mais vraiment, et vous avez un riz qui est parfait.
Et pas de riz en sachet plastique non plus.
Non, surtout pas. Le plastique, c'est pas fantastique.
Non.
Oui, mais bon, ça se réchauffe ou pas, tiens, d'ailleurs.
Parce
on pourrait le réchauffer dans votre,
c'est aussi
avec votre méthode.
Un des avantages, c'est que vous oubliez toutes les ondes du micro-ondes et vous réchauffez à la vapeur. Et vous avez des choses qui restent moelleuses et qui ne se dessèchent pas, surtout.
Ben, vous savez, Philippe, on en parlait ça aussi avec Stéphane. Dans ce qu'on trouve de plus en plus dans les restaurants aujourd'hui, c'est des fours vapeur. Les fours vapeur, on s'en sert avant le service pour faire cuire des choses, mais on s'en sert pendant le service pour maintenir les choses à température afin de pouvoir envoyer les assiettes d'une grande table en même temps et que tout soit chaud. Et ces fours vapeur, le principe c'est quoi ? C'est un principe de vapeur douce. C'est-à-dire que c'est une vapeur qui va être autour d'une centaine de degrés pour garder les aliments à 60 degrés à cœur. Ça permet de chauffer aussi l'assiette. Donc on a une assiette chaude, on met son assiette qui est déjà dressée directement dans ce four vapeur à quoi, une centaine de degrés.
En dessous, en régénération, on est dans les 70.
Ouais. Et ça arrive, c'est vrai qu'on met un peu en dessous pour pas que les serveurs se brûlent les mains non plus. Mais voilà, et ça arrive à table, c'est chaud, l'assiette est chaude, ça reste chaud longtemps, et tout le monde mange en même temps et à bonne température. Et ben c'est une forme de cuisson vapeur douce. Là, c'est un réchauffage vapeur douce en fait, une remise en température.
Bien, d'autres recettes, des explications sur cette cuisine à la vapeur douce. Je rappelle que si vous avez des questions, vous les posez en direct au 01 53. 48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, c'est une des tendances qui ont le vent en poupe depuis le confinement, la cuisine à la vapeur douce, Manu.
Absolument, la cuisine à la vapeur douce. Alors, on est effectivement en train de. Là, pendant la pause, hein, on parlait cuisine, hein, et de toutes les choses qu'on peut faire. D'ailleurs, moi, je parlais du fait que moi, je cuisais mes ballotines de poulet, etc. Non. Là, je suis sur une recette.
Vous faites bizarrement la ballotine avec vos mains. C'est pour ça, j'ai cru que c'était une moule.
Non, mais vous avez déjà vu des moules de cette taille-là, Philippe?
Oui, oui. Bon. Manu.
D'accord. Et on ne parle pas des mêmes moules, Philippe. Je suis désolé. Alors, simplement la ballotine de volaille cuite à la vapeur d'abord, etc. Et je vois qu'effectivement il y a des belles recettes de volaille dans votre livre, suprême de poulet farci, etc. Puis une blanquette de volaille aussi, tiens d'ailleurs. Voilà. Alors, je rappelle, hein, si vous avez des questions à poser,
de volaille à Stéphane, et de poisson d'ailleurs aussi, hein, oui, de cabillaud.
Oui, tout à fait.
Alors, si vous avez des questions à poser sur la cuisson à la vapeur douce, vous appelez 01 53 48 3000. Profitez-en pendant qu'on a notre spécialiste Stéphane Gabrielli. Alors, Stéphane, on a vu qu'on pouvait cuisiner hein, de l'entrée au dessert, notamment donc les poires bourdaloues, qui est un plat emblématique de la cuisine française. Est-ce que vous aimez bien revisiter les plats classiques comme ça pour en faire des plats à la vapeur douce?
Alors pour moi, ma tarte préférée, c'est la tarte bourdaloue. Donc malheureusement, on ne peut pas travailler les pâtes à la vapeur parce que le résultat, ça marche pas.
C'est clair.
Voilà, j'ai essayé avec la pâte à choux, ça fonctionne pas. Avec le feuilletage, ça fonctionne pas. Juste la pâte à brioche, ça on peut. Voilà, et la pâte à cake, voilà, c'est des pâtes qu'on peut travailler.
Oui, la pâte à brioche, on est plus sur du gâteau, plus proche du gâteau que de la pâte
ouais,
à tarte.
Voilà. Donc je voulais travailler le fruit parce que le gros avantage aussi à la vapeur d'eau, c'est que le fruit garde toute sa structure. Donc ça permet d'avoir un fruit qui est cuit mais qui part pas en compote. Donc et l'idée justement, c'est de le travailler comme ça avec un petit insert d'appareil bourdaloue, donc amandes, beurre pour la gourmandise qu'on vient mettre dans la demi-poire.
Pas d'œuf.
Si je mets des œufs pour le lier, bien sûr, il y a un œuf, un peu de vanille et on vient le mettre dans le cœur de la poire et on cuit l'ensemble 7-8 minutes et c'est une poire magnifique.
C'est une tarte aux poires bourdaloue, déstructurée, comme aiment bien dire les jeunes.
Ouais, voilà, on a mis quelques amandes hachées pour donner un peu du croquant et surtout une belle chantilly à la crème crue gaborée pour donner de la gourmandise.
Alors, la cuisine à la vapeur, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Bon, on en parlait ensemble en préparant l'émission, hein, les dadas marocaines hein, qui cuisinaient dans les familles. Pour cuisiner à la vapeur douce, elles mettaient des petites pièces d'argent au fond de la casserole. Et quand elles entendaient la pièce frémir sur le fond de la casserole, ça voulait dire qu'il restait de l'eau. Et dès qu'elles n'entendaient plus la pièce, elles disaient « Ah, faut remettre de l'eau ». Parce que c'est vrai que l'eau avait quand même une certaine valeur à l'époque. Elle recommence à avoir une certaine valeur. Et c'est vrai que la cuisson à la vapeur douce permet de ne pas utiliser trop d'eau et donc de ne pas gâcher d'eau.
Non, on est sur un litre et demi dans la cuve. Et l'eau, on peut l'utiliser le midi, le soir. Voilà, on peut l'utiliser sur 2-3 jours. Tant qu'il n'y a pas eu de choses comme les poissons ou des protéines dedans, il n'y a absolument pas de problème.
D'accord, donc uniquement si on cuit des protéines là, il faut changer l'eau. Sinon, tant qu'il y a de l'eau, on peut continuer à l'utiliser sans qu'il y ait de transfert de goût.
Non, sans problème. Et de toute manière, on peut cuire dans le tamis un bout de poisson avec du chou-fleur ou du brocoli. Le poisson n'aura pas de goût. Ou un fondant au chocolat à côté, il n'y aura pas de goût de poisson ou de
chou. Ce ne sera pas un gâteau de la mer.
Non, tout à fait. Donc c'est un gros avantage et c'est surtout, ça permet... avec l'eau qui va se faire de plus en plus rare, de pouvoir laver ses légumes dans la cuve, garder cette eau pour pouvoir cuire après.
Alors, dans l'esprit de beaucoup de gens, même parfois connaisseurs de la cuisine, le premier à avoir remis au goût du jour la cuisson vapeur, c'est Michel Guérard. Mais en fait, c'est une erreur, puisqu'avant lui, il y a eu Jacques Manière. Ils étaient copains d'ailleurs, ils se tiraient des bourres sur pas mal de choses, les deux, hein, Jacques Manière et Michel Guérard. J'imagine que vous avez étudié un peu la question et les origines de la cuisson vapeur.
Oui, de toute manière, la cuisson vapeur, elle est ancestrale. Hein. En Asie, on cuisine à la vapeur depuis des millénaires, on n'a rien inventé. Ce qu'il fallait, c'était un peu la mettre en situation... par rapport à la cuisine française qui était on démarrait au charbon, au feu et tout ça. Voilà, essayer de trouver quelque chose qui puisse être sain. Et c'est vrai que Jacques Manière a été le pionnier de ça. Il est arrivé un peu trop tôt.
Il l'a théorisé et vous l'avez modernisé, on va dire.
Ouais, voilà, je l'ai un peu sublimé. C'est pour ça qu'on l'appelait sublimer la cuisson à la vapeur. Voilà, pour la rendre accessible.
Ah oui, donc il faut lire sublimer et non pas sublime.
Oui.
D'accord. Voilà. Bon. Donc, j'avais pas vu le petit accent. C'est le titre du livre, hein, aux éditions Albin Michel, le livre de Stéphane Cabrielli.
Voilà. Donc, je l'ai rendu accessible et surtout que les gens, quand il y a des recettes de chef, beaucoup n'osent pas parce qu'ils se disent, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, trop complexe. Là, j'ai fait voir qu'on pouvait.
Oui, les recettes sont simples, hein. Sont vraiment accessibles, hein.
Ouais, j'ai fait un livre pour les gens, j'ai pas fait un livre pour moi. Donc ça, c'est vraiment très important pour pas qu'ils soient dans l'échec. Parce que si on les met dans l'échec à la première recette, ils vont dire, ben, on n'a pas la maîtrise du chef, donc c'est normal, on est mauvais ou quoi. Alors que c'est faux, c'est ou les recettes sont mal écrites, ou il n'y a pas tous les secrets de chef, malheureusement.
Ou elles sont trop techniques, avec des termes trop techniques, on en parlait. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous, vous êtes formateur, hein, et prof à l'école hôtelière Ferrandi, c'est que donc, déjà les recettes sont claires, accessibles.
Lisibles.
Et surtout, moi j'ai pas mal feuilleté le livre hier soir. Et c'est vrai que dans pratiquement toutes les recettes, ça permet aussi d'apprendre une ou plusieurs techniques de base. Donc, en faisant les recettes du livre, on apprend aussi à cuisiner quelque part.
Oui, c'est ça. C'est pas même des gens sur le premier livre, même des gens qui font pas la cuisine à la vapeur douce, se sont inspirés de certaines recettes pour les adapter parce qu'elles étaient très accessibles et ils les ont faites dans leur four ou ailleurs. Mais ça leur a donné envie de cuisiner.
Oui, d'ailleurs, on parlait de la vapeur comme étant pas forcément l'unique. L'unique moyen de cuisson. Il y a un exemple, par exemple, vous donnez une recette de gyoza. Là, effectivement, on se sert de la cuisson vapeur, mais après, on poêle les raviolis, hein, c'est le principe.
Oui, c'est ça, en fait. Le gyoza, à l'origine, c'est qu'on fait une caramélisation, et après, on va y en déglacer avec de l'eau dans son wok. On met un couvercle pour que les gyoza cuisent dans la vapeur. Ben là, l'avantage, c'est qu'on inverse, c'est qu'on vient déjà les cuire à la vapeur et ensuite on vient les caraméliser.
Ouais. Alors, donc vous proposez une paella aussi. Alors, comment est-ce qu'il y a un des ustensiles précis qu'on met à l'intérieur de la partie haute du cuiseur vapeur? Comment ça se passe?
Oui, en fait, il y a une céramique qui est à disposition avec le vitaliseur, mais vous pouvez utiliser des bols en céramique. Il faudra juste adapter les temps de cuisson. Voilà. Par exemple, il y a un gâteau au chocolat que je fais dans un bol en inox et qui fonctionne très bien.
Ok, parce qu'il y a la différence entre le vitaliseur que vous utilisez ou les cuisins en vapeur et le couscoussier, c'est que les trous sont plus gros, on va dire de la taille d'un petit pois, quoi.
Donc, oui, c'est ça, ouais.
Donc le riz, ça.
Non, ça va. En travers, il passe pas. Les petits pois, ils passent pas à travers. On est en dessous de la taille du petit pois.
Alors Jenny est avec nous. Jenny, bonjour.
Oui, allô.
Bienvenue, Jenny.
Bonjour, Jenny.
Merci.
Et vous nous appelez de
J'habite à côté de Royan.
D'accord.
Dans les Charentes-Maritimes,
voilà, 17.
Très belle région.
Oui, c'est vrai, très joli. Avec beaucoup de poissons, donc c'est pour ça que le vitaliseur, il va beaucoup servir.
Ah, donc vous êtes une utilisatrice du vitaliseur et une pratiquante de la cuisson vapeur douce.
Voilà, disons que je l'ai depuis à peu près une dizaine de jours.
Ah, c'est
et voilà, ça fait pas longtemps, mais depuis 10 jours, il sert tout le temps.
Bon, ben, vous allez pouvoir compléter ça avec le livre de Stéphane.
Ah ben, je l'ai reçu, ça y est.
Ah, ça y est.
J'ai les deux. J'ai commandé en même temps les deux livres. Donc voilà, j'ai reçu le premier la semaine dernière et quand le deuxième est sorti, je l'ai reçu pratiquement tout de suite.
Alors Jenny, est-ce que vous avez une question à poser au chef?
Ben, pas forcément une question, je voulais simplement faire un témoignage, dire que c'était un super livre, dire également le remercier parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux et il n'hésite pas à répondre quand on a des petites questions et des choses comme ça. Donc c'était surtout pour témoigner que c'est vrai qu'on peut vraiment tout faire à la vapeur douce parce que moi depuis une dizaine de jours, j'ai testé beaucoup de choses et c'est vraiment extraordinaire.
Alors, qu'est-ce que vous avez cuisiné justement depuis 10 jours? Déjà, est-ce que depuis 10 jours, vous ne faites que ça, de la cuisson vapeur douce?
Eh ben oui, pratiquement.
Alors, vous avez cuisiné quoi exactement?
Alors, j'ai fait du chef, en recette du chef, j'ai fait le
pain. Ah, autre, hein, parce que c'est vrai que c'est pour savoir si effectivement, à partir des recettes qu'on trouve dans le livre, on peut inventer ses propres recettes derrière.
Bah ouais, tout à fait, parce que hier soir, par exemple, j'avais des bananes qui étaient en train de trop mûrir, donc j'ai fait un banane à bread, j'ai fait la recette que je fais d'habitude au four. et je l'ai fait, je l'ai adapté au vitaliseur et bah, y a une différence énorme quoi, au niveau du moelleux, au niveau de tout ça quoi.
Oui, on en parlait tout à l'heure, hein, la cuisson des gâteaux notamment à la vapeur douce, ça permet d'avoir un moelleux assez intéressant.
Ouais, et puis même si on est mauvais en pâtisserie, on arrive à réussir les gâteaux quand même.
Ah ben les gâteaux, ils sont super moelleux quoi. Je sais que j'ai fait goûter à des amis qui étaient là, c'est extraordinaire quoi la différence.
Vous avez des enfants, Jenny?
Non, j'en ai mais très grands, donc ils vivent plus d'accord. À la maison.
Oui, mais j'imagine que quand vous leur faisiez de la cuisine à la vapeur, ils devaient dire « Ah, oh, c'est pas bon, c'est pas... »
Eh ben voilà, disons que moi j'avais les traditionnels dans le temps, hein, le traditionnel cuit-vapeur à plusieurs étages. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, parce que là on redécouvre vraiment le goût des légumes. Les légumes, c'est extraordinaire, quoi. Les légumes cuits sur le tamis du vitaliseur, c'est autre chose, quoi. C'est complètement, complètement différent.
Jenny, merci d'être intervenue. Et puis,
je voulais remercier le chef aussi parce que et sa gentillesse, parce que c'est vrai qu'il est très présent sur les réseaux et quand on lui pose des petites questions, il répond tout le temps. Donc, merci à vous, chef.
Oui, oui, merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos menus à la vapeur douce, comme ça, si on passe du côté de Royan avec Philippe, on viendra vous voir.
Oui, il n'y a pas de problème.
Merci Jenny.
Il y a Faudil aussi.
Merci.
C'est une émission qui est d'accord.
Alors, on n'a pas encore parlé des œufs, mais on peut faire des œufs au plat, par exemple, à la vapeur.
Oui, tout à fait. Mmh. On peut faire des œufs cocottes, des œufs mollets et des œufs au plat.
Oui, pour la cuisson des œufs type cocotte, mollet, j'imagine que là, on a quelque chose de très utile avec la vapeur douce parce qu'on va. Est-ce que ça ne devient pas presque inratable avec la vapeur douce, les œufs type mollet
Non, il faut juste caler un temps de cuisson, mais c'est surtout qu'on a quelque chose qui est très moelleux. Même les œufs durs, en fait, vous n'avez pas ce côté caoutchouteux de la cuisson à l'anglaise. Mm-hmm. Donc, c'est très intéressant.
La base, c'est de connaître le temps réel de cuisson.
Oui, oui.
Alors,
voilà,
justement, c'est ça aussi qui m'a plu dans votre livre, c'est qu'à la fin, vous avez fait... indépendamment des recettes que vous citez, parce qu'évidemment, vous ne faites pas des recettes avec 100% des ingrédients qu'on peut trouver, mais vous avez un tableau indicatif des temps de cuisson à la fin, où vous listez les légumes, les légumineuses, les céréales, etc., et où vous donnez le temps de cuisson et l'éventuel besoin de trempage ou non pour tous les aliments. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très... très très pratique, et puis il y a notamment effectivement les œufs, donc à la coque, au plat, en cocotte, mollet, dur, toqué. Alors l'œuf dur, généralement on va dire 9-9-30 hein, pour l'œuf dur. Là, à la vapeur douce, on le cuit 14 minutes.
Ouais, pour avoir un œuf qui est bien dur, et c'est surtout quand je fais les œufs mimosa où j'ai besoin d'avoir le jaune bien ferme.
Cuit, d'accord.
Voilà, donc c'est pour ça, mais 12 minutes, c'est parfait.
Et il y a un œuf toqué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un œuf toqué, Stéphane ?
Mais en fait, c'est un œuf qu'on va ouvrir par le dessus avec un toqueur. Donc ça, c'est fabuleux parce que ça permet de pouvoir faire plein de petites garnitures à l'intérieur, des petits morceaux de foie gras. Pour les petites mouillettes. Et on cuit cet œuf à la vapeur, justement, sur un petit socle. Et on a un œuf qui est parfait.
Un œuf coq, c'est une forme de...
Oui, c'est un œuf coq, mais à part que l'œuf coq, on casse la coquille après cuisson, que là, on va la casser avant, et ça va nous permettre de mettre des petits dés de saumon fumé, plein de petites garnitures, et jouer dans l'œuf, voilà, avant de le cuire.
Voilà, et je précise, hein, parce que, bon, j'ai rien contre les journaux féminins, mais souvent dans les fiches cuisine des journaux féminins, souvent, quand on parle d'œuf coq ou de choses comme ça, c'est pas précisé. Toujours utiliser des œufs très, 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 très frais pour faire les œufs coq. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes de salmonelle ou autre, parce que plus l'œuf vieillit, plus les salmonelles peuvent pénétrer à l'intérieur. Et comme l'œuf coq, c'est une cuisson qui est vraiment... instantanée. Ça ne tue pas toutes les bactéries. Donc toujours des œufs très frais pour les œufs coq.
Oui. Et aussi, ce que je voudrais, c'est remercier les producteurs partenaires, parce qu'à la fin du livre, vous allez avoir une vingtaine de producteurs, 17 ils sont, qui ont participé à ce livre avec leurs produits. Et je suis très fier que nos paysans puissent être dans ce livre.
Voilà, et je précise aussi, c'est parce que c'est vrai que souvent les livres de recettes, il y a des recettes et puis basta. Vous avez aussi fait des recettes batch cooking. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense aux mamans, hein, aux mères de famille qui doivent, qui parfois bossent et s'occupent des enfants en plus et de la cuisine et autres, ou des papas, parce qu'il y a des papas qui cuisinent aussi. Il y a des recettes pour batch cooking, donc on peut vraiment cuisiner une semaine de repas à l'avance, et ça, c'est bien pratique également. De toute façon, on fera bientôt une recette, une émission sur le gaspillage alimentaire et le batch cooking, Philippe.
Très bien, Manuel. Alors, on rappelle le titre du livre de notre invité avec l'accent, s'il vous plaît.
Alors, sublimer, non pas sublime, comme je le disais, sublimer les produits du marché à la vapeur douce, 200 recettes incontournables. C'est écrit par Stéphane Gabrielli, que nous recevions aujourd'hui. C'est chez Albin Michel. Et vous le trouvez sur Amazon, dans les librairies, à la Fnac ou autre. Et c'est 21,90€ pour 200 recettes, donc ça fait pas cher la recette.
Non, j'ai voulu le rendre accessible.
Voilà, et vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous, Manu. À samedi prochain, passez
samedi,
un bon week-end.
Merci
sur
beaucoup.
Beurre FM.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.